Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce début de semaine. Avec au sommaire du jour, eh bien, des merengues en grande forme et des blaugrana en petite forme. Les deux grands d'Espagne joueront leur classico dans 5 jours et pour le Barça, qui accueillera le Real au Camp Nou, eh bien, il faudra gagner pour ne pas perdre, du moins pour rester dans la course au titre. Alors que les madrilènes, eux, équipe et entraîneur, accumulent les bons résultats et même les records. Enfin, l'Atlético a gagné pour essayer, lui, de ne pas décrocher, tout comme Séville d'ailleurs. Le PSG et Monaco sur une dynamique gagnante. Les Lyonnais doivent regretter leur première mi-temps défaillante qui a offert aux Parisiens une victoire à leurs dépens. Mais l'équipe plus impressionnante chaque week-end en championnat de France, c'est bien Monaco qui continue à cartonner. Les Monégasques et les Parisiens deuxièmes au classement. Mais jusqu'à quand? On peut se le demander alors que Nice donne les premiers signes d'essoufflement. Mais qui sera donc champion d'automne? Invité dans ce studio aujourd'hui pour évoquer ces sujets, bien, nous avons Nabil Djellit et Patrick Juillard, bonjour. Les deux compères.
Le duo bonjour. Magique.
Exactement.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Réunis de temps à autre sur l'antenne de RFI. Et puis Olivier Pron est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Oui, non, moi c'est Salim Bogali.
Non, Salim, il n'est pas encore là.
Oh, il viendra plus tard.
Il est ultra fort, il arrive là.
Ouais.
Fais l'interview de Pogba.
Il a eu du mal.
Vous savez, c'est pour faire l'interview de Pogba, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Faut faire la queue.
Il faut aller chez le coiffeur.
Radio Foot, c'est parti.
James de primeras, prepara el centro Nacho, que levanta la cabeza, la pone con rosca para Ronaldo. ¡Gol! Del Real Madrid en el 17, otro de Cristiano Ronaldo.
Avec cette magnifique tête, Cristiano Ronaldo a signé un doublé face à Rejón et le Real Madrid conforte sa place en tête de la Liga. Mieux même, les merengues enrichissent leur période faste en alignant pour le moment 31 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et ils restent invaincus, surtout en championnat d'Espagne cette saison. Alors à 5 jours du Classico, évidemment, ça sent bon, surtout que ce Classico se disputera au Camp Nou et cette longue série d'invisibilité, eh bien, elle a peut-être de quoi impressionner les adversaires, d'autant que les Blaugrana, eux, ils vont moins bien, on y viendra. En tout cas, Zinedine Zidane n'hésite pas à magnifier le talent de son équipe.
C'est bien ce qu'on est en train de faire tous. Ce qu'il faut noter, c'est surtout le travail des joueurs, ce qu'ils font, le fait qu'on soit sérieux. Moi, j'ai toujours dit qu'on avait une équipe qui était la meilleure du monde et en travaillant, ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est surtout eux, c'est eux qu'il faut remercier pour tous ces trucs-là. Nous, on essaie de travailler avec eux. Et c'est tous ensemble qu'on arrive à avoir des résultats. On est content, mais on sait très bien que l'objectif, c'est pas celui-là. L'objectif, c'est à long terme, c'est ce qui va se passer à la fin de la saison. Donc on reste concentré sur l'objectif qui est de continuer comme ça. Quand on aura eu des résultats finaux, ben on pourra dire qu'on sera content.
Zinedine Zidane est lui aussi d'ailleurs sur une période bien faste, puisque l'entraîneur affiche le meilleur ratio de victoires en Liga de l'histoire de la Casablanca, hein, 81,8% de réussite. Et puis c'est 33 matchs en Liga et 86 points marqués, soit un record absolu. Alors messieurs, selon vous, est-ce que Zizou et ses merengues sont, comme il dit, meilleurs du monde, Nabil?
Bah oui, moi pour moi oui, je vais mouiller
en ce moment, même si leur match n'était pas...
Si le curseur est que le meilleur championnat au monde est le championnat espagnol, preuve en est les résultats sur les dernières sessions de Ligue des Champions. Si la meilleure équipe du moment est la plus en forme est le Real Madrid, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas la meilleure équipe du moment sur cette séquence-ci. Alors il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer, on va certainement en parler, mais quand Cristiano Ronaldo va, bah tout va. Ouais. Donc je vous rappelle quand même que Cristiano Ronaldo
en tête du championnat des buteurs, puis chichi là. Hein.
Voilà, puis chichi
10 buts,
2 passes décisives, il a eu un petit moment difficile en début de saison, mais ça va beaucoup mieux, et puis il va aller chercher tranquillement son ballon d'or. Donc voilà, tous les indicateurs sont verts. En plus, Zidane, il fait tourner intelligemment, il a relancé des joueurs qui avaient un peu disparu de la circulation, comme le Serbe Kovacic, ouais. qui s'est installé au milieu de terrain, au niveau du Real. Moi, je vois pas pourquoi on dirait pas que c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Quand c'est le Barça qui le fait, qui met des tarnioles à tout le monde, on s'emballe et c'est la meilleure équipe du système solaire. Pour moi, c'est le Real là. C'est
sur les résultats, sur la mobilisation de l'effectif, sur l'utilisation des hommes, c'est-à-dire la manière dont, comme disait Nabil, Zidane arrive à faire tourner, à garder tout le monde concentré, à réussir à créer une émulation, puisque évidemment il a plus de 11 joueurs pour l'équipe, il y a plus de 11 joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires dans cette équipe, donc il faut savoir doser les mises au banc et les titularisations, ça il le fait très bien. Après moi, sur la qualité de jeu, sur le plaisir pris à regarder, moi je préfère regarder le Borussia Dortmund ou Manchester City quand ça joue bien. Bon, après, c'est mon avis personnel.
Ou Chelsea
sur la deuxième mi-temps contre Tottenham, dont vous parlerez demain. Mais voilà, c'est vrai que sur l'utilisation de son effectif et sur la gestion des égos, là, il est
firmament. Hein.
Il est parfait.
Firmament.
Salim, bonjour.
Bonjour Annie. Effectivement, je voudrais répondre en deux temps en fait à cette question. D'un côté, comme le disait Patrick, effectivement, soyons honnêtes, les résultats sont là, les faits sont là, comme le disait Nabil aussi. À un moment donné, vous êtes en tête du classement, vous ne perdez pas, vous êtes la seule équipe à être encore invaincue en Europe, au final,
voilà,
hein,
sérieux,
que ce soit en championnat et également en Coupe d'Europe, l'équipe n'a toujours pas perdu également. Donc c'est tout de même un petit signe,
un
indice important. En deux temps, pourquoi ? Parce que va falloir quand même voir dans les prochaines semaines, j'entends par là, sans Gareth Bale. C'est un élément clé forcément de cette équipe.
Vous parlez de Classico,
exactement, il va être absent plusieurs mois. Et sans Gareth Bale, à court terme, on se dit oui, il y a les remplaçants qu'il faut. Mais à long terme, cette BBC, elle vaut quelque chose. Et sans l'un des B, c'est déjà autre chose.
Ouais. Je veux pas
on va voir des samedis surtout. Parce que si jamais le Real venait à battre le Barça dont on va parler, dans les secondes qui viennent, eh bien, il y aurait 9 points d'écart entre les deux équipes. Là, ça commencerait à être un vrai gouffre. Et puis, un dernier mot, juste Zidane, je faisais partie, comme beaucoup, j'imagine, des sceptiques au moment où il a été appointé. Et en revanche, là, maintenant, je combats les esprits chagrins qui disent « Ah oui, mais avec l'effectif qu'il a, c'est normal. » Non, ça n'est pas normal. Ouais. Oui, il est en train définitivement de gagner ses vrais galons d'entraîneur. On ne mène pas une équipe juste parce qu'il y a de très bons joueurs comme ça, là où il l'amène. Donc, vraiment, chapeau à Zidane qui fait taire beaucoup de critiques.
Surtout que lui, il le sait, cette année, c'est l'année où il faut gagner le titre de champion d'Espagne. Et justement, François David, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors François, dites-moi, est-ce que du côté de l'Espagne, on se courbe, on va dire, devant Zidane et devant les royaux que sont les joueurs du Real ?
Sur les points, sur la domination que effectivement le Real met depuis plusieurs semaines, cette victoire la semaine dernière à l'Atlético de Madrid, on en avait parlé d'ailleurs, oui, effectivement. Maintenant sur le jeu, le match contre le Sporting de Gijón, ils menaient 2-0 au bout de 17 minutes, et ils se sont quand même beaucoup relâchés. Alors c'est normal hein, qu'on enchaîne les matchs comme ça, on joue contre un adversaire plus faible. Sous la pluie, on mène facilement 2-0, on a tendance à s'en lâcher. Mais c'est le bémol, hein. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, c'est peut-être Patrick, sur le jeu déployé par le Real, c'est le seul petit bémol. Alors ça passe contre le Sporting, ça passe aussi, le Real Madrid sait mettre aussi le bleu de chauffe quand il le faut, mais effectivement là, cette prochaine, ça va être le grand test, c'est la finale, hein. Enfin, peut-être déjà de la Liga, on est en novembre, mais si jamais, comme le dit Olivier, si jamais le Real Madrid gagne au Camp Nou, ça fera 9 points, et 9 points en Liga, quand on est le Real Madrid, quand on sait l'importance, et ça, c'est vous qui l'avez dit Annie, d'une victoire en Liga qui s'échappe depuis 2012, on sait que c'est l'objectif principal des Merengues, et ben ce sera compliqué après pour le Barça de revenir.
Oui, effectivement. Nabil.
Ouais, mais François David, je vous écoute avec intérêt, je suis assez d'accord avec vous, mais évidemment, mais enfin ils ont quand même collé un 3-0 à l'Atlético, on l'a oublié, et à l'Atlético quoi, je veux dire, quand on voit cette équipe de l'Atlético qui a pourri la vie à tout le monde la saison dernière en Ligue des Champions.
Pas que la saison dernière.
Ouais, voilà, enfin qui sort le Bayern,
qui va terminer première de son groupe en Ligue des Champions.
Qui sort le Bayern, qui sort Barcelone. Alors, je veux bien qu'il gagne à l'arraché face à Gijón et que c'était pas fantastique. Je veux bien, mais quand vous réussissez une telle performance, je vous défie de trouver une seule équipe sur les trois dernières saisons qui a été collée une telle raclée à l'Atlético à Vicente Calderón. Moi, j'en ai pas vu.
Mm-hmm. Effectivement, d'ailleurs, François David, hein, c'est ça qu'on critique souvent de Zinedine Zidane, plus qu'un meneur d'hommes et un meneur d'ego, ça on le sait un peu parce que finalement il a été de ce côté-là, lui, du côté des égos et dans des vestiaires différents. Mais c'est surtout un style de jeu que peut-être des fois on n'identifie pas encore, à moins que ce soit sa force de faire le caméléon et d'adapter à chaque fois son effectif à ce qu'il a et ce qui se passe sur le terrain.
Ben voilà, en fait, à ce qu'il a, c'est vrai que Zidane n'a pas eu de chance avec les blessures. Il y a eu beaucoup de blessures depuis son intronisation. Il y en a encore. Gareth Bale, vous l'avez dit. Casemiro, là, qui revient à peine. Toni Kroos, qui est pas là. Benzema aussi, qui était en délicatesse. Benzema qui sort à samedi, hein, au Camp Nou, 8 buts, hein, sur 24 classico pour Benzema. C'est un élément indispensable. Mais c'est vrai qu'il y a un style peut-être qu'on n'a pas encore trouvé au Real Madrid. On sait très bien, enfin, on savait jusqu'à quelques semaines à quoi jouait le Barça. On ne sait pas trop ce que fait encore le Real Madrid. Peut-être que là, il a trouvé quelque chose avec Isco juste derrière l'attaquant de pointe, Ronaldo. Ronaldo aussi replacé en pointe. C'est peut-être son futur poste dans les années à venir. Mais il s'adapte. Il montre aussi, Zidane, une variété tactique que peut-être peu de personnes pouvaient lui dire qu'il pouvait faire. Ouais. Moi, je reste impressionné par son boulot. Ouais.
Salim.
Quand on entend les propos de François, à mes côtés, il y a Nabil qui fait la mine dubitative. Alors, mais j'entends effectivement le propos et je suis plutôt d'accord avec François. C'est vrai que le style, entre guillemets, Zidane, visualise pas forcément. Non, mais je vous taquine, Nabil. Mais je veux dire par là, lorsque vous êtes au top, ou en tout cas lorsque vous prétendez être un grand, ou vous êtes un grand, on en attend encore plus. Donc, le Barça a son style. City, désormais, qui veut être un très grand, a son style, etc. C'est vrai que le Real de Zidane, on le visualise pas ce style. On a l'impression qu'on peut mettre les 11, ça joue, ça gagne, mais c'est pas beau. C'est ça,
enfin,
en fait,
c'est
qui
pas
est gênant.
Faut pas exagérer, peut-être. Non, mais qu'est-ce que. Non, mais je veux dire, il y a quand même.
C'était efficace. J'entends par là, non, on demande encore plus.
Je suis pas à l'opéra.
Non, mais
regardez,
c'était beau quand même.
Plus. C'est ça.
Je suis pas à l'opéra. Regardez nos
reliefs,
quoi.
C'est pas que c'est pas beau, c'est qu'il n'y a pas un style clairement identifiable. C'est-à-dire que quand on vous regarde jouer.
J'ai envie de vous dire, c'est un
club.
Qu'est-ce que tu fasses de plus, là? Il est en tête.
On ne demande jamais comment. Justement, on demande
plus dans la.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça soit le Brésil 70?
On ne demande jamais comment, on demande toujours combien. Ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Et puis après, on verra. Pour l'instant, les résultats sont bons.
Mais je trouve que c'est un peu exagéré.
Moi, j'attends mieux.
Ouais, bah, plus rien.
Bon, alors, effet miroir, évidemment, d'autant plus à 5 jours du déplacement en Catalogne, hein, qui est ce classico. Eh bien, le FC Barcelone, lui, va moins bien. Hier, il n'a ramené qu'un match nul de San Sebastián. Alors, c'est un peu comme chaque année, parce que depuis 2007, cette équipe n'arrive pas à s'imposer face à la Real Sociedad dans son stade. En tout cas, les Barcelonais, pourtant presque au complet, hein, avec notamment leur MSN, eh bien, ils auraient presque pu perdre ce match. Et Luis Enrique, leur entraîneur, se désole du niveau de jeu des siens. Et c'est exactement l'inverse de ce que dit Zidane, pratiquement.
Sincèrement, on ne méritait pas la victoire. La Real Sociedad était meilleure que nous, mais nous n'avons pas perdu le championnat. C'est seulement la 13e journée. On doit juste penser à s'améliorer. Nous avions fait un grand match au Celtic, mais là, c'est mon pire match à la tête du club. On affichera un autre visage lors du Classico face à notre plus grand rival. On va devoir progresser pour battre le Real Madrid et ensuite espérer qu'il perde des points.
Alors, François David, on a lu certains observateurs parlaient d'une leçon de football reçue par les Blaugrana. J'ai envie de vous demander, qu'est pas ça avec le Barça?
Qu'est pas ça. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est une crise de jeu terrible. Hein, c'est vrai, depuis plusieurs semaines, on n'arrive pas à connaître le Barça. Un milieu de terrain très très faible, hier très très faible. Busquets, qui est obligé de colmater un petit peu partout. C'est pas du tout son jeu de pas courir les kilomètres. Busquets, il est obligé d'être au four au moulin. Rakitic, qui a baissé de niveau. André Gomes, qui est complètement perdu sur le terrain, qui porte trop le ballon, qui a pas du tout le style d'Iniesta. Iniesta, d'ailleurs, qui pourrait revenir pour le Classico en même temps qu'on
sera sûrement bien.
Deux excellentes nouvelles pour le Barça. Mais sinon,
mais François,
hier,
c'est incroyable les statistiques. C'est 53% de possession de balles.
Ils ont perdu
pour
la possession.
La Real Sociedad.
Ils ont perdu la possession. Mais hier, on changeait les maillots. On aurait pu croire que la Real était le Barça. Et inversement, j'ai rarement vu une équipe dominer autant le FC Barcelone. Juste une toute petite statistique, le Barça est quand même connu pour être une équipe super offensive. Le premier ballon qu'ils ont touché dans la surface de réparation de la Real Sociedad hier soir était à la 41e minute. Donc ça prouve vraiment qu'ils étaient complètement bloqués. Ils ont perdu l'essence, enfin ce qui fait l'essence même de leur jeu, la possession de balle, le mouvement, surtout le mouvement, il compte uniquement sur la MSN et sur le génie de Messi qui a encore marqué hier, eh bien pour débloquer les situations. Mais quand ils n'ont pas le ballon, et ce qui est souvent le cas actuellement, eh bien ils deviennent une équipe extrêmement vulnérable. Et quand Piqué est pas au niveau, quand Mascherano est pas au niveau, eh bien ils prennent l'eau. Et c'est ce qui s'est passé hier soir.
C'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Alejandro Valente, notre réfé à tous, qui est revenu. Plus de milieu de terrain et du coup, Barcelone n'est plus Barcelone. Vous êtes d'accord, Patrick ?
Oui, je suis d'accord.
Moi, c'est ce que dit François. Hein.
Je me demande, et je vais interroger François là-dessus, est-ce que le poids des affaires extra-sportives, des problèmes fiscaux de beaucoup de joueurs de l'équipe ne joue pas un peu là-dessus ? Est-ce que les joueurs sont pas un peu moins mobilisés sur le football et plus la tête ailleurs en ce moment ?
Peut-être,
on n'est pas dans leur tête, mais c'est... On peut se poser la question, quoi.
Neymar hier a pas fait un grand match, notamment. En plus, Neymar hier a eu un problème de voiture. Je sais pas si vous l'avez suivi.
Avec sa Ferrari rouge. Quoi, hein,
ouais, voilà. Donc,
elle tient pas la route.
Mais faut voir aussi, peut-être aussi que Luis Enrique, son message passe moins bien. Moi, on m'a dit que il était fatigué, Luis Enrique, tout simplement de gérer ce vestiaire d'ego. C'est vrai que c'est Messi qui contrôle totalement le vestiaire désormais. Sa voix peut-être porte moins, on pense qu'il va sûrement arrêter en fin de saison. C'est vrai que 3 ans au Barça, ça équivaut à peut-être le double hein, dans un autre club, mais c'est vrai que beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau et ils ont besoin d'un match référence. Alors ce sera peut-être samedi hein, contre le Real. Le Barça a besoin, c'est peut-être la meilleure nouvelle qui soit, hein, qu'ils affrontent le Real samedi prochain, mais c'est vrai que là que c'est vraiment préoccupant. Moi ça fait des années en tout cas que j'avais pas vu le Barça à ce niveau-là, et on a vraiment l'impression qu'ils sont pas du tout convaincus par ce qu'ils font. Et c'est ça peut-être le plus préoccupant pour le Barça qui depuis des années, on le sait, avait vraiment un style et une idée commune à tout le monde.
Une identité surtout, effectivement. Et c'est marrant, quand Luis Enrique dit dans ce son « mon pire match », effectivement, on retient ce « mon » parce qu'il y a tous ces hommes sur le terrain, mais il dit que c'est « mon pire match ». Nabil ?
Déjà, bon, s'il a du mal à gérer le vestiaire du Barça, il a qu'à aller gérer celui du Real. Parce que
ça date pas d'aujourd'hui, on s'en souvient.
Quand vous avez Cristiano Ronaldo dans le secteur, je vous annonce que c'est peut-être encore plus compliqué que d'avoir... Messi. Vous parliez de la défaillance dans l'entrejeu, mais c'est aussi la défaillance du recrutement et des moyens du FC Barcelone. André Gomez, 35 millions de bonus. J'ai jamais compris son transfert. Alors ok, c'est un joueur intéressant, prometteur. Mais bon, voilà, j'ai pas eu l'impression qu'il casse non plus la baraque au point de signer au FC Barcelone. Rakitic aussi, on en parle un peu moins, mais je trouve qu'il est un peu en dedans depuis pas mal de temps. Il avait été très bon lors de la victoire en Ligue des Champions face à le Juve, il avait fait une super saison. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu le pied, et moi ce qui m'inquiète, et je vous le dis très honnêtement, c'est la défense du FC Barcelone, parce que si Alaba est absent pour le match contre nos amis du Real, puisqu'il s'est blessé là, et on sait pas s'il va être là...
Jordi Alaba.
Enfin bon, bref, j'ai fait une contraction entre les deux. D'ailleurs, Alaba, il pourrait très bien jouer au Barça avec son style. Mais Lucas,
vous rattrapez bien.
Jordi Alba, a priori, il sera forfait.
Ouais. Enfin,
Et Piqué s'est blessé à la cheville. Ouais, il a tenu le match. Mais...
Je veux pas être méchant et puis je veux pas préjuger de ce qui va se passer. Mais si vous mettez Digne à gauche et que de l'autre côté t'as Bale ou Ronaldo qui dézone, je pense qu'il y en a un qui va prendre des courants d'air. Donc c'est plutôt inquiétant. Voilà.
Salim.
Et pour prolonger ce propos, c'est vrai que c'est le milieu de terrain moi qui m'inquiète, parce que ces défenseurs qu'on parle de Piqué, de la défense de Piqué hier, mais Piqué, il fait quand même régulièrement des bons matchs quand même. On va pas tout d'un coup le dire qu'il est mauvais. Et les autres défenseurs, Mascherano également, qui certes est passé à côté, mais Mascherano est évidemment un très bon défenseur lorsqu'il est à Barcelone. C'est surtout le milieu de terrain qui, quand c'est un milieu de terrain remplaçant entre guillemets, n'arrive pas à protéger cette défense comme il le faut. Et hier, on l'a vu lors de cette
regardez leur banc. Qualitativement, le banc du Barça, il a baissé. On a l'impression qu'il y a moins des joueurs qui émergent de leur centre de formation. Et en plus, quand il y en a qui émergent, ils n'ont pas su les garder. Je pense notamment à Thiago Alcantara, qui n'aurait pas fait de mal aujourd'hui au FC Barcelone. Parce que moi, je regardais leur banc, là, comme ça. Alena, je ne sais pas qui c'est. Donc, peut-être que ça va être un grand joueur, hein, j'en sais rien. Hein. Marlon, je connais l'acteur Marlon Brando. Ouais, Paco Alcacer, bon, c'est un bon joueur, c'est un attaquant.
C'est un super joueur, lui.
La guitare,
voilà. Après,
Paco Alcacer,
Rafinha. Et Sergi Roberto qui est titulaire à droite, ça fait peur.
François-David, restez avec nous. On reviendra dans quelques instants à cette Liga, parce qu'il y a aussi deux autres clubs qui sont là après au classement et qui s'appellent Séville et l'Atlético. Et on se retrouve donc juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI. Vous êtes toujours sur la Radio du Monde et nous continuons à parler de football avec Nabil Djellit, Patrick Juillard, Salim Bongali et avec Olivier Pron. Nous en étions à l'Espagne, nous y restons un peu. Alors nous avons beaucoup mis en perspective ces deux équipes que sont le Barça et le Real en vue du Classico qui se déroulera en fin de journée samedi prochain. En attendant, le classement, ce n'est pas seulement ces deux équipes, heureusement d'ailleurs, même si ce sont les deux qui sont en tête actuellement de ce classement de Liga. Il y a aussi deux autres équipes, François-David, qui est toujours avec nous. Il y a Séville et l'Atlético Madrid. Alors, un instant d'abord sur ces joueurs, ces colchoneros, parce qu'on les voit flamboyants en Ligue des Champions. C'est les seuls à avoir 15 points remportés en 5 matchs et donc en autant de victoires. Là, ils se sont imposés contre Osasuna 3-0. C'était clair et net avec notamment des buteurs toujours là. Est-ce que cette équipe revient au bon moment?
Oui. Ben en fait, on parlait que le Barça avait perdu un petit peu de son identité. Et ben là, j'ai l'impression que depuis cette déroute à domicile contre le Real il y a une semaine, et bien enfin, Diego Simeone revient à ce qui a fait l'essence même de l'Atlético, c'est-à-dire une bonne défense, beaucoup d'intensité, peu d'espace à l'adversaire et des attaquants très très rapides et efficaces. On avait un petit peu perdu ça. Il a remis un joueur essentiel hein, pour lui qui était blessé depuis très longtemps, qui est Thiago Mendes, l'ancien joueur de Lyon, qui stabilise vraiment le milieu de terrain. Coquet, qui jouait au milieu de terrain, eh bien, est repassé sur un côté. Et on voit tout de suite que l'équipe a repris un petit peu de sa solidité. Devant, ils peuvent compter sur le retour de Griezmann, qui a marqué en Coupe d'Europe, qui a marqué encore ce week-end
qui ça,
vous l'avez dit ce week-end.
J'ai un trou
contre Osasuna, voilà.
Osasuna, oui.
Et Gamero marque une nouvelle fois. Donc ils sont revenus à ce qui ont fait leur force. Alors ils sont loin pour le titre, mais en tout cas ils vont être là pour les places en Ligue des Champions.
Effectivement, ils sont à 9 points encore, mais ça aurait pu être pire. Donc ils reviennent effectivement au bon moment. Olivier.
Et puis avec la force de frappe, Gamero, juste pour être précis, c'est son sixième but, c'est autant que Griezmann. Ferreira Carrasco fait une saison, début de saison phénoménal. C'est l'homme des derniers instants. Il marque souvent en fin de match après de longues chevauchées. C'est une équipe qui est à nouveau très belle à voir. 9 points, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais en Ligue des Champions, on parlera.
Oui, mais 9 points, c'est quand même beaucoup en Espagne, justement. Oui. Mais tout à l'heure, François le disait, en cas de victoire du Real face au Barça, il y aura 9 points, on dira que c'est beaucoup. Ben, là, c'est exactement la même chose.
Si le Real et le Barça, ils font match nul et l'Atlético, ils gagnent.
Ça fait 7 points.
Ouais, ben, ils reviennent déjà un peu. Déjà, 7 points, on tiendrait
c'est
pas
bien
le même
ce petit
discours.
Cours de maths, la famille, ça fait toujours plaisir.
Non, mais faut faire attention parce que je crois qu'on a déjà vu des écarts de la sorte en Espagne être annihilés, quoi.
C'est rare, mais effectivement, ça existe.
Mm-hmm. Faut quand même qu'ils comptent sur un vrai fiasco du Real et du Barça pour revenir.
Je suis pas d'accord. Il faudra vraiment qu'ils comptent sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient bons et qu'il y ait une série vertueuse parce qu'à un moment ou un autre, le Real ou le Barça, ils vont laisser quand même des points en cours de route, mais si vous gagnez.
Si vous voulez, mon ami.
Sauf que François-David, cette année, peut-être que entre l'Atlético et le Real, les intérêts de la saison sont peut-être inverses, c'est-à-dire pour le Real, cette année, c'est l'année de remporter la Liga, et pour l'Atlético, c'est le rêve de gagner enfin la Ligue des Champions.
Bah ouais, c'est quand même un titre qui leur échappe.
Je crois que deux fois en finale, quand même.
Ouais, et puis trois fois dans leur histoire, ils n'ont jamais gagné cette Ligue des Champions. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est l'obsession même de Diego Simeone, c'est de l'emporter. Et effectivement, moi, peut-être miser une petite pièce sur eux cette année, effectivement.
Ouais. François-David, quant à Séville, alors Séville, c'est le club de Sampaoli qui a donc perdu Unai Emery ces derniers temps, mais qui reste là bien accroché parmi ces grandes équipes espagnoles.
Ouais, bah une victoire, alors pas très convaincante contre Valence, mais ils ont quand même gagné. Il y a un joueur qui leur manque énormément, c'est Nasri était absent, c'est deux dernières semaines, une blessure aux ischios jambiers. Et sans lui, on voit que Séville a plus de mal. C'est un peu le lien en fait entre la défense, l'attaque, il fait un petit peu tout. Samir Nasri, il a retrouvé son meilleur niveau. Il sera pas là cette semaine en coupe, mais il devrait revenir la semaine prochaine en championnat. Et il sera très utile contre l'Olympique Lyonnais, notamment en Ligue des Champions. Il y a eu une déception cette semaine, pareil en Champions League contre la Juventus. Il menait et il se retrouve à 10, après ils perdent le match. Mais c'est une équipe intéressante. Alors, ils sont peut-être pas prêts cette année pour le titre.
Sampaoli, c'est sa première saison, n'oublions pas.
Il provoque quelque chose. C'est une équipe qui donne quelque chose, qui donne de la vie, qui donne du jeu, qui donne du bonheur vraiment à ceux qui la regardent. Mais avec Nasri, c'est un élément vraiment indispensable pour cette équipe-là. Et il va revenir enfin Samir Nasri cette semaine.
Ouais, Séville qui est troisième avec autant de points que le Barça.
Et on rappelle qu'on les attend, ce sera sur RFI le 7 décembre contre Lyon. C'est une vraie finale de groupe, ça va être un match passionnant à suivre. Lyon-Séville, il faut que les Lyonnais gagnent par deux buts d'écart, on y sera aussi. On va y aller tous ensemble.
On sera au stade.
Et je vais être taquin envers Nabil, là où il y a quelques instants et quelques minutes avec Zidane, on parlait d'absence de style peut-être. Avec Sampaoli, là, le style, on l'a. C'est à tout va, ça va dans tous les sens. Alors parfois presque à l'extrême, on voit certains résultats qui ne sont pas forcément à l'avantage de Séville. Mais là, le style, on l'a, un style à Nabil. Ça en fait, tout simplement.
Merci beaucoup François David d'avoir été avec nous et puis de toute façon on va vous retrouver dans la semaine pour évoquer quand même ce classico. Il va se passer des choses
samedi soir dans Mondial Sport, c'est moi le taulier bien sûr, vous avez votre ronde serviette j'envoie pas de mail c'est acquis.
Comptez sur moi, je serai là. Bon. Un super match, 16h15,
ouais. Match. D'accord, merci beaucoup.
Bonne émission.
Merci François, à très bientôt. Et nous voilà de l'autre côté des Pyrénées en Ligue 1 où nous ne boudons pas notre plaisir cette saison. Pour une fois, le championnat est disputé à un niveau plutôt élevé et pas seulement par deux, voire par une seule équipe qui dominerait tout le monde. Il y a un groupe de tête où on a trois équipes, Nice, Monaco, Paris. Et puis on a un autre groupe aussi, Rennes, Guingamp, Bordeaux, Lyon et Saint-Etienne qui finalement, des fois quand ils se croisent aussi, ces groupes et ces équipes, ça reste des matchs intéressants. Alors hier soir, c'était Lyon PSG avec, malheureusement pour les Lyonnais, une défaite. Eux qui auraient peut-être pu arracher quand même un nul dans leur parc OL, à défaut d'une victoire, mais surtout à défaut d'une défaite. Alors l'OL s'est réveillé sans doute trop tard, on va y venir, ne commençant à réagir qu'en deuxième mi-temps. Analyse réaliste avec le buteur de cette soirée côté Lyonnais, c'est Mathieu Valbuena.
C'est dommage parce que je pense que entre la première et la seconde demi-temps, il y avait quand même une différence et puis on a vu qu'on les avait mis un peu en difficulté, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il nous manque des fois ce dernier geste qui fait qu'il faut gagner des matchs, marquer des buts et on a eu des situations pour gagner 2-1. On les a pas mises et forcément contre Paris, c'est compliqué et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions en seconde mi-temps. Ils en ont eu plus en première, mais au bout du compte, ils gagnent et ils ont fait le dos rond quand il fallait.
Ils ont fait le dos rond quand il fallait, effectivement, les Parisiens. Alors, ils menaient 1-0 et on voit qu'ils se font remonter. On se demande même s'ils vont tenir le score et tenir la victoire. Patrick, il y a quand même trop de différence de niveau entre ce Lyon du moment et d'hier soir et ce PSG une bonne semaine.
Pas vraiment. Offensivement, je trouve que Lyon a montré en deuxième mi-temps qu'ils avaient les arguments pour faire vraiment du mal à cette équipe du PSG. Ce qui est vraiment problématique à Lyon, c'est l'équilibre défensif. C'est vraiment en première mi-temps, on a vu le bloc lyonnais beaucoup trop bas, subir, avoir beaucoup de mal à remonter les ballons correctement, partir de trop loin et être totalement inoffensif finalement. Il y a un effectif très mal constitué à Lyon avec des défenseurs centraux qui sont pas au niveau attendu, notamment Nkoulou qui ne jouait pas hier soir mais qui est pas le leader défensif escompté. Le jeune Mamana, l'Argentin, qui a été recruté également cet été, qui est un joueur supposé être très prometteur mais qui pour l'instant a pas le niveau nécessaire pour être titulaire à Lyon.
Ouais.
Et à gauche, il n'y a aucun vrai spécialiste convaincant du poste de latéral gauche, puisque Jérémy Morel, c'est un peu un joueur en fin de carrière, et Ribus a des qualités certaines de frappe, d'offensive, mais c'est pas un bon défenseur. Donc c'est très compliqué pour Lyon, c'est une équipe très déséquilibrée.
Ouais, même on a vu Lacazette qui n'était pas très brillant hier, qui a raté des choses. Des fois, on se moque de Cavani.
Mais... quand on voit Guézal, par exemple, c'est pas mal. Il y a des joueurs de qualité à Lyon.
Il y a des joueurs de qualité.
Tolisso, c'est bien. Enfin, bon.
Fekir tarde à retrouver.
Fekir, c'est un autre problème.
L'équipe lui a mis deux gros problèmes.
On va peut-être en parler un peu plus de Fekir.
Finalement, Valbuena, c'est une des bonnes surprises d'hier, parce qu'il faut le... Faut le marquer ce but en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que quand on regarde les 45 premières minutes, on a tendance à pencher vers un 3, un 4-0 même pour Paris qui écrase véritablement cette équipe. Et puis finalement après les choses se rééquilibrent. Mais c'est vrai que Lyon, c'est pas la première fois qu'on dit que Lyon mérite mieux. Lyon méritait mieux contre la Juve dans les doubles confrontations et aurait peut-être évité de jouer cette finale contre Séville dont on a parlé et dont on reparlera. Et hier Lyon méritait mieux que cette défaite.
Nabil.
Plus que ce qui a été dit, moi c'est un problème d'attitude que j'ai trouvé. Lyon a refusé le jeu en première mi-temps. Je trouve que c'est un peu scandaleux à domicile de faire ce qu'ils ont fait au bout de 2 minutes de jeu.
C'est-à-dire qu'on voit l'entraîneur changer de stratégie, mais seulement à la mi-temps.
Bah voilà, et puis quel message il leur a envoyé d'entrée, il leur a dit c'est bien de défendre, mais à un moment faut presser, faut harceler, faut essayer aussi de tenter des coups. Franchement, ils ont joué 45 minutes, donc ils peuvent avoir que des regrets sur ce match. Ça. La deuxième mi-temps, OK, le Paris Saint-Germain était peut-être un peu en gestion parce que ils sentaient qu'ils avaient Lyon à leur main, et d'ailleurs s'il y avait eu un break avant la mi-temps, un 2-0, c'était pas scandaleux, mais on se rend compte que les arguments offensifs, les joueurs, ils sont là à Lyon, ceux qui sont en faillite. Alors ok, on peut toujours reparler des problèmes défensifs sur la saison, mais moi, pour moi, ceux qui ont été en faillite hier, c'est ceux devant, la Lacazette fantomatique. Bon, Guézal, finalement, il fait des matchs moyens, mais on dit qu'il est pas mal, parce qu'en fait, c'est le meilleur des trois, mais il fait des matchs moyens. Il fait pas, et on l'a déjà vu faire beaucoup mieux, mais bon, ce qu'il fait, c'est correct. Mais ce qu'on attend, c'est la Lacazette, c'est Fekir, et finalement, encore une fois... c'est Mathieu Valbuena comme à la grande époque entre guillemets qui surgit et puis qui met en plus
un beau but,
qui met un très joli but. Moi je trouve que c'est plus que ils sont meilleurs, ils sont plus forts sur le papier, blabla. Moi je trouve que c'était l'attitude en fait j'ai trouvé que c'était le jour et la nuit. Je suis très surpris quand même de voir.
On a l'impression qu'il joue qu'un demi-match.
Voilà.
C'est vrai que déjà la bonne chose effectivement Valbuena qu'on attend plus, qu'on attend pas, on se dit il est fini, tout le monde veut le mettre à la cave.
Au c'est final, lui qui éclaire le jeu.
Il a changé le match.
Il entre et il met ce but si important à ce moment-là en tout cas. Et puis de l'autre côté, c'est très étrange parce que la première période, Lyon est totalement donc inexistant, et au moins on a envie de dire la deuxième période a montré des choses dans le sens où Genesio a dû faire passer un message avec ses changements aussi à la mi-temps. Donc j'ai presque envie de retenir que cette seconde période, pas forcément la baisse de forme du PSG, mais le côté lyonnais en réaction, le côté lyonnais qui peut montrer des choses. Ça, c'est positif pour l'OL au moins.
Qu'est-ce que vous voudriez dire sur Nabil Fekir, Patrick? Parce que on le sait, il revient d'une blessure qui a été longue, qui a été éprouvante, les ligaments d'un genou et tout ça. On a eu l'impression qu'on pourrait le retrouver quand il a refait ses premiers pas, et puis là on a l'impression de l'avoir perdu à nouveau.
J'ai un peu de mal avec Nabil Fekir à discerner ce qui relève des séquelles de la blessure qui sont normales pour une blessure de ce type. On met toujours du temps à revenir, on met toujours du temps à se réathlétiser, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire à reprendre un poids de forme et une tonicité qu'on avait avant la blessure. Et d'autre part, des problèmes psychologiques. On a un peu l'impression qu'il est moins impliqué quand même, on a un peu l'impression qu'il est moins en osmose avec ses coéquipiers, et c'est un peu troublant quand on le voit jouer sur le terrain. Il a l'air un peu plus perdu, il a moins l'air d'être le leader offensif qu'il ne l'était à une époque.
On se dirige tout simplement vers un joueur où on va dire à un moment vaut mieux qu'il parte. C'est vrai que sa blessure a été vraiment un contretemps terrible, parce qu'on sait jamais si
à un moment où il était en pleine
Il était fantastique. Moi je me souviens, juste avant de se blesser, il fait un match à Caen, il met un hat-trick. Bon, j'ai cru que c'était Messi, hein, je dis honnêtement. Ça, depuis Eden Hazard, j'avais pas pris autant de plaisir avec un joueur de Ligue 1 qui se révélait comme ça. Bon, ouais. Après il y a Patrick qui peut nous parler de l'animation collective de Nice, mais on le laissera faire. Mais il y a effectivement de l'ordre, ce qui est de l'ordre de la performance qui est bon pour l'instant pas à la hauteur, mais on peut toujours mettre l'histoire de la blessure parce que ça met du temps et qu'on ne sait pas s'il récupérera totalement. Et ensuite il y a ce qui se passe aussi peut-être en coulisses, où j'ai l'impression moi, puis j'ai écho également, que voilà, tout n'est pas aussi limpide, ça chicane un peu avec peut-être Genesio, avec peut-être certains. En début de saison, lui il voulait jouer derrière l'attaquant, mais le schéma le mettait sur le côté. Et j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas totalement en odeur de sainteté. Je pense que Lyon cherche à l'exposer au maximum quand même pour essayer de le vendre en fin de saison.
Avec la note 2 que lui met l'équipe aujourd'hui, il a intérêt à s'exposer différemment. En tout cas, les Parisiens, eux, on a l'impression qu'ils deviennent quand même réguliers. Ils enchaînent 4 victoires consécutives en 5 journées. Edison Cavani, n'arrête plus de marquer, votre chouchou, Olivier Pron. Doublé. Non, il marque un but hier soir et il est surtout actuellement le meilleur buteur européen. 13 buts en Ligue 1 et c'est aussi bien que Pierre-Emerick Aubameyang en championnat, hein, comparons ce qui se compare. Et il est donc heureux surtout de la semaine au PSG.
C'est une grande victoire parce que après la Champions League, que nous jouions un match très important là-bas, que nous donnait tous. Et après trois jours, jouer un autre match comme ça, difficile et important avec Lyon, et c'est très difficile. Alors pour nous, c'est important les trois points. Je suis content, pas seulement pour moi, je suis content pour l'équipe, parce que nous voulons continuer à monter dans la classification. C'est important pour ça.
Edinson Cavani qui a marqué un but avec Arsenal en Ligue des Champions et deux buts durant ce match hier soir au Parc OL.
13 buts en 12 matchs, il n'a disputé lui que 12 matchs, c'est vraiment un super ratio. Il en a 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. C'est vrai que c'est assez rare en Europe, alors il en rate beaucoup mais il en marque quelques-uns, c'est ça le plus important.
C'est vrai que je suis sur cette antenne notamment suffisamment critique à son égard, puisque vous l'avez dit Olivier, il rate énormément d'occasions, mais hier...
Il n'y a pas eu de face à face avec un gardien.
On va louer effectivement son réalisme. Même le but hors-jeu qu'il marque et qui est signalé finalement hors-jeu, qui était là un geste sublime de la part d'Edinson Cavani. Donc, au moins, il est capable de le faire. Au moins, on est rassuré. Après, si vous me le permettez, certes, il a fait face à un Lyon qui n'a joué donc qu'une mi-temps, qui a très bien joué, mais qu'une mi-temps. On va attendre qu'il le fasse dans un match de Ligue des Champions qui va permettre à son équipe de gagner. Là, je pourrais me taire encore.
Il a des super stats en Ligue des Champions. Hein. On a l'occasion de le rappeler souvent, encore une
fois. Oui, oui, oui. Et on voit ce que ça donne.
Mais il
au
a
final.
Des super stats en Ligue des Champions. Il faut rappeler hier que le deuxième but, il le marque après un mouvement fabuleux des deux latéraux, Aurier et Meunier. Pour le centre, superbe centre vraiment, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que Serge Aurier a fait un gros match d'habitude, beaucoup de centres, beaucoup d'impact,
Laissez-moi encore attendre un petit peu le Cavani en Coupe d'Europe quand même, et encore une fois qui permet à son PSG de gagner face à un grand, et pas de faire un bon machul certes face à Arsenal, mais machul quand même, j'attends une victoire face à un grand d'Europe.
Mais je crois que tout le monde attend une victoire du PSG face à un grand d'Europe,
voilà. avec Cavani,
pas
pourquoi
un, deux ou trois buts de Edinson Cavani, mais bon, la victoire hier, elle était importante parce qu'elle permettait quand même à ce pari-là de recoller, de faire avec Monaco la bonne opération du week-end, parce que c'était ça quand même l'enjeu hier, c'était de revenir à un point de Nice.
Eh ben Nice, justement, on va en parler parce que Nice, ils sont actuellement un, n'est-ce pas? Vous lisez peut-être.
Il y a quelqu'un qui a le sourire encore
épaules.
Plus là. Quand on parle de
non, mais il va pas l'avoir longtemps.
Justement,
parce que ça y est.
Justement, ça y est. Olivier a quelques bémols à mettre du côté de ces Niçois.
C'est moi qui vais en mettre sur ce que dit Olivier.
On va prendre dans l'ordre. on retourne dans le temps et dans l'ordre des matchs. Et effectivement, Nice hier savait que il y avait une bonne opération du côté de Monaco. Peut-être qu'il y en aurait une du côté de Paris et il fallait essayer de maintenir l'écart. Eh bien, pas trop. Les Niçois ont fait match nul seulement et sur leur terrain contre Bastia. Résultat, deux points perdus hein, puisqu'ils n'ont marqué que le point du match nul. Et c'était une grande déception pour les Niçois et leur milieu de terrain, Rémi Walter.
Et on est très déçus parce qu'on voulait la victoire et voilà, on est déçus pour nous, on est déçus pour les supporters qui étaient présents et pour tout le monde. Après, c'est sûr, c'est un point, mais on ne doit pas se contenter de ça. Je pense qu'au vu du match, on méritait mieux. On a très mal entamé le début de deuxième période et c'est ce qui nous a mis dedans. Hélas, nous, on a toujours à cœur de faire un résultat. D'autant plus quand on est chez nous et on est frustré parce que on voulait vraiment prendre les trois points et c'est pas le cas.
Alors Patrick Juillard, vous le Niçois, on a Nice qui est toujours devant, est toujours premier, toujours seul, mais un point d'avance seulement sur Monaco et le PSG qu'on sent être lancé à leur basque et à fond. Et surtout, on a l'impression peut-être d'un moins bien de la part des Niçois.
Bah, un moins bien, c'est...
Alors, ils ont plus Balotelli
en ce
moment.
Il faut déjà rappeler quand même que ce match était un derby, c'est toujours assez spécial. Et les deux derniers derbies à domicile contre Bastia, Nice les avait perdus. D'ailleurs, la dernière défaite de Nice à domicile en championnat, c'était contre Bastia l'an dernier à l'Allianz. Donc déjà, Nice a fait match nul. C'est déjà un résultat quand même intéressant par rapport à l'historique de ces matchs. Ensuite, il faut pas oublier que Nice est privé de Mario Balotelli et on a encore vu hier que Alassane Plea.
On a vu des statistiques qui disaient que même sans Balotelli, il gagne quand même.
Alors, c'est quand même plus simple de jouer avec Mario Balotelli, parce qu'Alassane Plea, on a vu hier qu'il se crée beaucoup d'occasions. Maintenant, l'efficacité n'est pas toujours là. On l'a vu quand même rater.
Mais alors, un coup de mou ou pas? Ils vont être champions d'automne ou pas, vos Niçois?
J'ai peur que non, mais je pense que oui quand même.
Nice va jouer le PSG. C'est ça, vous espérez que oui.
Ouais. Non, mais Nice va, faut pas oublier que Nice va jouer le PSG
Nice
au Paris.
Paris, Paris, au Parc.
Ah bah on verra enfin un peu de football.
Ça me rappelle une fabuleuse phrase d'un confrère italien la veille d'Allemagne-Italie à l'Euro. Je suis persuadé qu'on va perdre, mais j'espère qu'on va gagner. C'est à peu près le même principe. Ouais, c'est délicieux. Mais non, c'est vrai que Nice quand même montre des signes de fatigue ces derniers temps, ça marche un peu moins bien.
Oui, mais
et le vrai
pas.
Match vérité où tout peut s'arrêter, c'est quand ils vont venir en prendre 3 ou 4 au Parc
le 11.
Je blague.
Oh, il faut enregistrer là.
Stopper l'enregistrement.
Je pense que ça n'arrivera pas.
Mais c'est vrai que s'il
doit confondre avec Reims,
s'il perd au Parc, ne me parlez pas de Reims. Quand on perd à la balle.
Si vous avez le,
il y a deux choses à pas oublier. Même Carlos Bianchi était énervé l'autre jour à cause de Reims.
Il y a deux petites choses à pas oublier quand même. C'est d'abord que avec l'arrivée d'investisseurs chinois au club, le GC Nice a de quoi acheter des joueurs au mercato d'hiver.
Ils sont sur la védine.
Et deuxièmement, Nice n'aura plus de Coupe d'Europe à disputer, contrairement à ses rivaux monégasques et parisiens.
Ah oui, ça, vu ce qu'ils en ont fait.
Et donc, d'accord, mais ça, bon, c'est vous qui le dites. Bon,
Le groupe est très difficile.
Schalke 04, c'est pas difficile.
Perdre chez soi contre Schalke, qui était dernier de la Bundesliga à l'époque.
Contre Salzbourg.
Vous les avez vus jouer ou pas, Schalke, pour dire ça?
On reste sur la Ligue 1.
Vous avez perdu le sens commun.
J'ai regardé juste jouer les adversaires.
Nabil.
Ce qui est intéressant, c'est que nos auditeurs doivent être très surpris de voir qu'on s'emballe pour un débat sur Nice, autant qu'un débat entre Messi et Ronaldo. J'imagine, à Bamako, ils doivent halluciner là.
Alors, Nabil.
Alors, Nice, c'est dans le sud de la France, pardon.
Ils seront champions d'automne ou pas?
Moi, je suis un peu comme Patrick. Moi, en tout cas, j'espère qu'ils finiront dans le top 5 du championnat, voire le top 3, parce que sur ce qu'ils méritent, sur ce qu'ils font, pardon,
ils méritent, agréables à avoir joué. Surtout.
Alors peut-être une petite indiscrétion.
Quand on voit que le premier poursuivant c'est Rennes, bon, on peut espérer.
Petite indiscrétion, qui a été sortie par un confrère de Média 365 que moi j'ai corroboré parce que j'ai eu aussi l'information, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par l'international argentin Ezequiel Lavezzi, qui évolue, enfin qui déprime, pardon, plutôt
à eBay Fortune.
Il est arrivé l'hiver dernier, il a signé pour 2 ans et 30 millions d'euros de salaire sur les 2 ans, donc 15-15. Et la passerelle se ferait entre les nouveaux investisseurs chinois qui viennent de se greffer au projet niçois avec le patron d'Ebay Fortune. Donc il pourrait y avoir un jeu de ligne d'écriture, comme on dit. Bah. Et Lavezzi pourrait très bien venir renforcer Nice au moment où il perdrait Belanda et Seri qui partent à la CAN, il faut pas l'oublier.
Ouais. Juste un point classement, ils ont effectivement un point d'avance sur Nice, sur Monaco et le Paris Saint-Germain. On peut penser que ces trois-là peuvent aller au bout parce que derrière vous avez Rennes qui est quand même à 9 longueurs des Niçois, Guingamp est à 10 points, Lyon est à 11 points.
Bah,
c'est vrai qu'il y a quand même un trou entre les trois têtes.
Il y a Lyon
et le reste,
Lyon
et on sait que les équipes qui suivent, Rennes, Guingamp, Bordeaux, c'est vrai que Lyon était encore plus loin l'année dernière à la 28e journée et a fini par être deuxième, mais là quand même on espère pour les Niçois qu'ils pourront au moins se maintenir là. Mais n'oublions pas cette semaine où ils vont venir à Paris. Paris a tout à gagner cette semaine-là en battant Ludogorets pour asseoir sa première place, puis enchaîner avec Nice. La fin d'année parisienne serait terrible et Unai Emery serait
tranquille. Donc, jusqu'au 8e de finale de la Ligue des Champions
pour les Niçois. Et
c'est pour ça qu'on pense vraiment de plus en plus que le GC Nice pourrait vraiment finir dans les trois premiers, quand vous voyez ce gap qui existe entre la 3e et la 4e place. Nice n'a pas de Coupe d'Europe, et Patrick l'a très bien dit, il n'y a plus que le championnat à penser, à réfléchir. Donc oui, cette équipe de Nice peut finir dans les trois premiers très largement.
Allez, on va parler quelques petites courtes minutes de femmes. Avec cette CAN féminine du côté du Cameroun, on a déjà les affiches des demi-finales. Alors, l'impression qu'on a peut-être, Patrick, c'est que la logique l'a emporté. On a un Cameroun-Ghana qui se disputera demain à Yaoundé. On a un Nigeria-Afrique du Sud ensuite. Le Nigeria tenant du titre, je le rappelle, qui a marqué 11 buts pour n'encaisser qu'un seul. Mais sans doute aussi la surprise Cameroun, qui certes est le pays hôte. 3 victoires, aucun but encaissé.
Oui, le Cameroun fait de bons débuts, mais c'est pas vraiment une surprise. On avait déjà vu les Camerounaises faire de bons tournois internationaux.
Notamment à la Coupe du Monde.
Notamment à la Coupe du Monde
féminine,
on s'en
souvient.
Bien sûr, l'an dernier. Donc, moi, je suis pas vraiment surpris par ce Cameroun-là, qui est poussé par son public. Les stades sont relativement pleins pour, faut mettre tout en toute proportion gardée, mais pour une épreuve féminine, je trouve qu'il y a des bonnes assistances. On a déjà vu pire dans des cannes masculines. Ensuite, bon, le Nigeria, effectivement, grosse cylindrée, grosse attaque, grosse équipe. Bon, c'est le favori numéro un et depuis bien longtemps. Le Ghana, c'est aussi un très gros client sur ces compétitions féminines. Ils ont notamment une très bonne défense. Même si contre le Mali, ils ont gagné, mais ils sont quand même bien fait bouger dans le jeu par ces Maliennes qui jouaient bien, mais un peu trop naïves défensivement. Et puis bon, l'Afrique du Sud, là aussi, c'est quand même une grosse nation du foot féminin en Afrique.
Je suis bluffé.
Il y a pas vraiment de surprise, effectivement.
Vous êtes bluffant, Patrick. Nice, la CAN féminine, le Real. Je suis sous le coup de l'émotion là.
Mais, Salim. D'ailleurs, dans les 4 qui restent, on notera que l'Afrique du Sud a perdu 2 joueuses qui ont dû rentrer au pays. L'une s'est gravement blessée, enfin une grosse
fracture. Et l'autre a eu un deuil dans sa famille.
Exactement. Absolument. Donc, quand vous avez ça et quand vous avez en face le Nigeria qui semble quand même très au-dessus, vous dites que le Nigeria a quand même quasiment validé son ticket pour la finale. Et puis de l'autre côté, le Cameroun, on évoquait ce parcours en Coupe du Monde. C'est tout sauf une surprise de voir les Camerounaises, elles qui avaient atteint les 8e de finale de la compétition en 2015. Enfin, le Cameroun, au pays, on pourrait bien avoir un Cameroun.
Leur meilleure joueuse, buteuse en tout cas, Madeleine.
C'est bien d'avoir une équipe.
N'Gono
un peu francophone dans un foot africain qui est dominé vraiment toujours par les nations anglophones. C'est bien de voir le Cameroun chez soi être à la hauteur. J'espère que c'est de bon augure pour la CAN 2019 que les hommes cette fois organiseront la CAN masculine.
Et Madeleine N'Gono, soulignons-le, n'a aucun lien de parenté. Non, il nous l'a précisé
c'est
l'autre
pas
jour.
Madeleine N'Gono officiel.
C'est pas officiel, c'est Mani.
C'est Rémi N'Gono arnaque, c'est la page officielle.
C'est Madeleine N'Gono Mani, la joueuse.
Je vais aller sur Facebook voir si elle a une page officielle.
Rémi, si tu nous écoutes, tu peux éteindre.
Non, on écoute rarement, il est au-dessus de ça, Rémi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot. C'est vrai que le lundi, on a toujours énormément de choses à dire. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure...
On fait une prolongation.
Monaco, on en reparlera, c'est promis. Mais on parlera aussi de l'Angleterre demain et de l'Italie. Merci à tous, merci à Jean-Pierre Bessière et à Guillaume Ploquin. À demain. We'll be right back.